par le père Philippe Saint-Jean le 3 février 1988.
J'espère que vous avez bien vu pourquoi le théologien comme saint Thomas commence l'analyse de la vertu de religion de cette manière et comment le philosophe, lui, part de l'acte religieux le plus éminent pour essayer de comprendre ce que c'est que l'éthique religieuse. Je crois que c'est très important pour nous de bien voir ces deux perspectives. La perspective du théologien, il analyse la vertu de religion. Et donc, d'une certaine manière, vous voyez, son analyse va commencer par le fondement, la dévotion. C'est sûr. Puis la prière dans la dévotion, puis l'adoration et le sacrifice. Donc on analyse. C'est une analyse merveilleuse de la vertu de religion. Tâtez-vous le pouls religieux, voyez comment il bat, et vous arrivez à découvrir que dans votre attitude de la vertu de religion, il y a cette dévotion. On est dévoué à Dieu. On prie. On expose à Dieu toutes nos misères et toutes les misères de ceux qui sont proches de nous. La dévotion conduit à l'adoration, l'acte intérieur d'adoration. Et l'adoration poussée jusqu'au bout implique le sacrifice. C'est un ordre très beau d'analyse. Le philosophe, lui, ne part pas de la vertu de religion, part de l'expérience. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la vertu de religion, c'est un habitus, ce n'est pas directement une expérience. Vous partez de vos expériences qualitatives. Quelle est l'expérience qualitative, religieuse, la plus nette? C'est l'adoration liée au sacrifice. Une adoration parfaite qui implique le sacrifice. Parce que c'est l'acte qui caractérise l'attitude religieuse par rapport à Dieu. Vous ne pouvez adorer pleinement que Dieu si vous prenez l'adoration en impliquant le sacrifice de nous-mêmes. On ne peut adorer que Dieu. On n'adore que Dieu. Tandis qu'on est dévoué à des personnes auxquelles nous avons de la vénération, auxquelles nous avons de l'affection, servante et dévouée à son maître. On ne dira pas que la servante adore son maître. Dans certains cas, ça arrive. Elle est dévouée à son petit chien. Une vertu assez particulière, mais qui peut très vite se tourner dans des perspectives qui ne sont pas tout à fait justes, mais dévouée à son chien ou à son chat. Ça existe. Des déviations de la vertu de religion, vous voyez. Il faut passer par le chien pour aller jusqu'à Dieu. Alors ça fait la dévotion. Et c'est vrai, je ne vais pas commencer l'éthique religieuse par la dévotion. Parce que ce n'est pas caractéristique de l'attitude de Dieu, de l'homme vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui me caractérise dans mon attitude vis-à-vis de Dieu? C'est l'adoration impliquant le sacrifice. Et, vous voyez, il faut dire l'adoration impliquant le sacrifice, c'est-à-dire l'adoration plénière, qui implique l'offrande de tout nous-mêmes, ce que je vous ai toujours dit. L'adoration implique l'offrande de tout nous-mêmes. On meurt à nous-mêmes en adorant. C'est la grande manière de mourir à soi, c'est d'adorer. Adoration en impliquant le sacrifice. Alors, comme le philosophe part de l'expérience, il part de l'adoration, qui est la seule expérience propre à l'égard de Dieu. Donc, Ça, je voudrais que vous en ayez l'évidence. Si vous ne l'avez pas, et si vous avez des objections là-dessus, essayez de les exprimer pour que ce soit net. Amour d'amitié pour l'éthique, adoration plénière impliquant le sacrifice pour l'éthique religieuse. Et l'éthique chrétienne partira de la sagesse de la croix. Vous avez les trois points névralgiques qui vous permettent de comprendre ces trois niveaux d'éthique, c'est-à-dire les trois niveaux de la responsabilité humaine. Si vous êtes chrétien, mais même, voyez, un philosophe vivant dans un monde où la culture chrétienne a existé, un philosophe regardant ce que c'est qu'une famille chrétienne, ce que c'est qu'une communauté religieuse chrétienne, essaiera de comprendre qu'est-ce qui fait le caractère particulier de cette communauté chrétienne. Qu'est-ce qui caractérise l'attitude particulière de tous ces membres qui font partie d'une communauté chrétienne. Il regarde de l'extérieur, en philosophe, l'expérience caractéristique du chrétien. Pas l'expérience mystique, parce que celle-là, il ne l'atteint pas. Mais l'expérience caractéristique au plan humain. Alors il verra sagesse de la croix. Bon, je crois que ça, on peut en avoir la conviction et comprendre. Alors, à partir de là, nous allons étudier qu'est-ce que c'est que l'adoration. Puisque c'est ça, le point de vue profond et important à développer au point de vue philosophique. Alors, on me met sur la piste. Et alors, je sers de cette piste. Que dire sur l'adoration? Que dire encore sur l'adoration? On en a déjà beaucoup parlé. Mais il faut y revenir tout le temps. L'adoration est-elle un devenir comme l'amour d'amitié? Ou l'adoration a-t-elle un devenir comme l'amour d'amitié? C'est bien évident. Tout acte humain implique un devenir. L'homme est un être qui progresse. Et donc ça implique un devenir. Je deviens progressivement un être qui adore. Et progressivement, je deviens de plus en plus capable d'adorer. Plus j'adore, plus je deviens capable d'adorer. Il y a quelque chose d'infini du côté de l'adoration. Il y a donc quelque chose qui va s'enraciner de plus en plus en moi dans cette profondeur de l'adoration. Et ça, c'est très important à bien comprendre. L'adoration est un acte volontaire. Nous y reviendrons en voyant tous les éléments de l'adoration, comme on l'a fait pour l'amitié. Mais il y a un devenir, c'est sûr. Alors, ensuite, on me pose la question de la nécessité de la vertu, nous le verrons après. Ensuite, on me pose la question, est-ce que le corps a quelque chose dans l'adoration? Nous le verrons. Et les effets de l'adoration, nous allons le voir. Donc, c'est très bien, comme piste, c'est parfait. Nous allons maintenant essayer d'entrer dans ce que c'est que l'adoration et tous les éléments de l'adoration. Nous avons tous l'expérience de l'adoration religieuse. Je ne parle pas chrétienne, humaine. L'adoration chrétienne serait tout de suite une adoration d'esprit en vérité. Liée à la croix. Je peux parler de cette adoration-là, même si, pour moi, dans ma vie chrétienne, c'est l'adoration chrétienne qui m'intéresse. Mais je sais que la foi et la grâce ne suppriment pas la nature. Si je suis chrétien, je dois être plus homme que s'il n'était pas chrétien. Donc il faut que l'adoration que je considère comme une activité humaine, je puisse la saisir dans toutes ses dimensions. Alors, première dimension d'adoration. Un acte volontaire. J'adore quand je veux adorer. Et dans tout acte d'adoration, il y a cette volonté d'adoration. Acte volontaire. Nous avons étudié dans la première partie de l'éthique ce qu'était la volonté. Nous avons vu que la volonté implique un amour. Un amour premier, portant sur le bien. Cet acte volontaire qui est impliqué dans l'adoration implique un amour à l'égard du Dieu créateur. Source de toute ma vie humaine, donc source de ma volonté. Et donc cet amour qui porte sur le Dieu créateur est un amour très, très fondamental. C'est un appétit spirituel radical. C'est l'appétit spirituel le plus radical qui soit. Ça, je peux tout de suite le dire, vous voyez, puisque ça porte sur Dieu créateur. Le Dieu créateur est la source de mon être et de ma vie. Il est la source de tout amour et de toute intelligence qui est en moi. Il est mon tout. C'est donc l'amour spirituel de la partie qui rejoint le tout. Et Dieu est plus présent à moi-même comme créateur que je ne suis présent à moi-même. Et donc cet appétit spirituel est radical. C'est ce qui est le plus profond en moi. Je ne le saisis pas dans sa profondeur immédiatement, quoi que je peux. Si je suis très lucide dans mon acte d'adoration et dans ma volonté d'adorer, de comprendre que dans cette volonté d'adorer, j'exerce ma volonté la plus radicale qui soit. Ça, c'est très important de le comprendre, vous voyez, parce que ça fait comprendre que c'est par là que je réveille ma volonté. Nous avons tous une volonté un peu inhibée dans notre monde d'aujourd'hui. Ce qui manque le plus à chacun d'entre nous, c'est la volonté. C'est sûr. On a des spontanéités charmantes, délicieuses, mais qui ne durent qu'un jour. Notre monde est un parterre de fleurs étonnantes, merveilleux, mais ça ne dure pas. Il faut une volonté pour que ça dure. Parce que ces spontanéités, c'est instinctif. C'est très beau. Il faut les garder. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et alors ça, c'est l'appétit spirituel et volontaire. Et cet appétit spirituel et volontaire porte sur le Dieu créateur. Donc, si je veux éduquer ma volonté, je l'éduque en premièrement par l'adoration. Si on connaissait ça, on comprendrait le grand principe premier de toute éducation humaine. Toute éducation humaine doit commencer par l'adoration. Je ne dis pas l'éducation chrétienne, a fortiori, mais l'éducation humaine. Il y a un psychanalyste autrichien qui a précisé que les refoulements les plus terribles, c'était les refoulements par rapport à cette affectivité profonde. Et on comprend très bien, si vraiment c'est l'appétit spirituel le plus radical, laissez cet appétit spirituel sans aucun exercice, et dès qu'il apparaît, le refouler, c'est la chose la plus terrible qui soit. C'est le refoulement qui va, je crois, engendrer les plus terribles angoisses. Un monde qui n'adore plus est un monde errant et angoissé. Et donc, si on veut éviter l'angoisse, ce que nous désirons tous, il faut adorer. Quand il est encore temps. C'est-à-dire quand on peut encore le faire. Si on attend l'angoisse pour adorer, c'est beaucoup plus difficile. Vous savez bien que dès qu'on est angoissé, on ne peut que revivre ce qu'on a vécu avant. Alors si on n'a jamais fait d'acte d'adoration, c'est très difficile. Et l'acte d'adoration peut toujours se faire quand on veut. Alors, il faut avoir de la volonté. C'est évident, si on n'a aucune volonté, si on est un être uniquement d'appétit sensible, alors à ce moment-là, on dira « je ne peux pas adorer ». Et c'est vrai que quelquefois, certains états psychologiques peuvent nous donner l'impression qu'on ne peut plus adorer. Mais je dis bien, c'est l'impression psychologique. On est comme hanté par certaines choses qui s'imposent à nous. Alors on a l'impression que notre volonté radicale est complètement inhibée. Mais si on se secoue bien, on arrivera toujours à retrouver cet appétit spirituel qui dort en nous. C'est comme Jésus qui dormait dans la barque avec un petit coussin. Jamais l'oublier. Alors, de temps en temps, notre volonté radicale dort au fond de la barque, sur un petit coussin. Un petit coussin bourgeois. N'est-ce pas ? Alors, notre volonté dort là-dessus complètement. On ne l'éveille pas. On doit la réveiller. Et si on réveille cette volonté, on acquiert progressivement de la volonté. Et alors à ce moment-là, peu importe les états psychologiques, on émerge. C'est très très important ça, au point de vue éducatif, pour nous et pour les autres. Et pour nous, notre auto-éducation se fait par l'adoration. Un noviciat bien fait se fait par l'adoration. Radicalement. Donc, un acte volontaire qui implique un amour. Cet amour premier, cet appétit qui se porte sur Dieu, un appétit naturel, va progressivement devenir une intention de vie et un choix libre. Le premier acte d'amour demande de devenir une intention de vie. Et cet acte d'adoration radicale peut prendre toute ma vie. C'est ça qui est tout à fait particulier vis-à-vis de cet appétit fondamental. Puisque cette intention de vie porte sur Dieu dont je veux être le serviteur. Et je suis le serviteur de Dieu en adorant. Voilà l'intention de vie. Vous voyez comment se noue l'adoration à travers cette intention de vie. Comme serviteur, je suis dévoué à Dieu. Oui, c'est l'intention de vie, ce premier amour qui va impliquer cette dévotion, ce lien avec Dieu, ce lien de confiance. Ce lien de confiance absolue du tout petit à l'égard de celui qui est son créateur. Il se remet entre les mains de Dieu. Ça, c'est la dévotion. On est dévoué comme serviteur de Dieu. Vous voyez, on l'aime radicalement d'un amour tout à fait particulier qui est un amour de dépendance. Un amour de dépendance qui réclame le don total de nous-mêmes, on va le préciser. Cette intention de vie va se nouer autour d'un choix libre et autour d'actes pour rejoindre Dieu. Ce choix libre qui consiste justement à choisir Dieu comme premier. Dieu est le principe de toute ma vie, le Dieu créateur. Donc voilà, acte volontaire complet. Amour, intention, choix. Tout ça est impliqué dans ce premier amour et dans cet amour volontaire de l'adoration. Qu'est-ce qui va caractériser cet amour? L'offrande de nous-mêmes. Dans toute adoration, il y a une offrande de nous-mêmes. Et on comprend très bien, puisque nous sommes partis et que Dieu est tout. La partie, pour être parfaitement partie, se rejoint au tout en s'offrant librement et en se donnant librement. Donc, offrande et don de soi. Ce qui implique un sacrifice. Tout acte d'adoration implique un sacrifice. Vous pouvez mettre ça en troisième lieu si vous voulez. Qu'est-ce qu'on va sacrifier à Dieu? Sa volonté. On se sacrifie à Dieu, c'est-à-dire qu'on fait que Dieu passe devant nous. Et c'est un sacrifice qui est une manière de saluer Dieu. Vous ne pouvez pas vous présenter à Dieu en dehors de l'adoration et du sacrifice. Dieu ne peut être présent à votre vie que si vous vous offrez à lui. Ça aussi, c'est très important de comprendre ça. C'est... Vous voyez, comprendre la manière particulière dont Dieu est présent à nous, dont nous sommes présents à Dieu. Nous ne pouvons pas être présents à Dieu sans nous offrir nous-mêmes, puisque c'est la manière de saluer Dieu. Vous saluez Dieu en l'adorant, c'est-à-dire en lui laissant toute la place. Parce que saluer Dieu, c'est saluer le Créateur. Donc c'est saluer la source, c'est saluer mon tout. Pas une partie, mon tout. Je reconnais que Dieu est Dieu pour moi. C'est ça, saluer Dieu. Et donc saluer Dieu, c'est reconnaître ma totale dépendance à l'égard de lui. Et que j'ai tout reçu de lui. Et que parce que j'ai tout reçu de lui, je lui remets tout. Vous voyez, comme on touche là ce qu'il y a de plus profond dans l'adoration, qui est de s'offrir à Dieu. On offre ce qu'il y a de plus nous-mêmes et on le donne. Ça ne nous appartient plus. C'est remis à Dieu. Et vous comprenez qu'on ne peut se donner à Dieu et s'offrir à Dieu que si on offre sa volonté. Parce que c'est la seule chose que nous possédons. La domina sui. La volonté, c'est par où nous dominons. Et nous offrons notre volonté à Dieu pour que notre volonté se conforme avec la volonté du Créateur, du Père. On ne peut pas faire un acte d'adoration sans avoir le désir radical de notre volonté qui se conforme à la volonté du Dieu. Et là, ce serait très intéressant de voir ce que quelqu'un comme Épictète dit. Quand il dit que ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est de se conformer à la volonté de Zeus. Je prends ça comme exemple, parce que c'est un païen, on ne dira pas que c'est chrétien. Se conformer à la volonté de Zeus. Eh bien, ça, c'est impliqué dans l'acte d'adoration. Je ne peux pas adorer sans conformer ma volonté à la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on dira psychologiquement à certains moments qu'on ne peut plus adorer. Parce qu'on sait que l'adoration va jusque-là. Et qu'au fond, on ne veut pas conformer notre volonté à la volonté de Dieu. Et si on est un tout petit peu plus lucide, on dira qu'on ne veut pas. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas. Mais qu'on ne veut pas. C'est pas la même chose. Il faut aller jusque-là au plan philosophique de la lucidité de ce que c'est que l'adoration. Laissez Dieu passer devant. C'est pas commode du tout, hein. Dans un monde où on ne parle que d'autonomie, où psychologiquement, on n'a qu'un seul désir, c'est retrouver son autonomie. Vous comprenez que là, c'est une autonomie très particulière. C'est une autonomie parce que on peut offrir sa volonté à Dieu sans la perdre. Puisque c'est Dieu qui en est la source. On est parti d'un tout. Alors on peut s'offrir totalement à Dieu et vouloir être totalement relatif à Dieu tout en gardant son autonomie. Et même, j'allais dire, en acquérant à partir de là une nouvelle autonomie. Ça, nous le verrons ensuite. Bon. C'est ce don, ce sacrifice qui se fait. Donc, l'adoration est premièrement un acte intérieur de volonté. C'est l'acte le plus intérieur qui soit, humainement parlant. C'est l'acte le plus intérieur. Un acte de charité au plan surnaturel, un acte de foi au plan surnaturel sera plus intérieur. Mais c'est divin. C'est surnaturel. Tandis qu'au plan humain, ce qu'il y a de plus intérieur en nous, c'est l'acte de volonté. Oui. Et c'est pour ça que ça nous rectifie. Ça nous met dans la vérité. On est vrai pratiquement que quand on adore. Puisqu'on est dépendant totalement de Dieu comme petite créature. Si on n'adore pas, on n'est pas dans la vérité. Où on n'est plus dans la vérité. Celui qui ne veut plus adorer se met nécessairement dans une attitude qui n'est plus vraie. Et à ce moment-là, il peut prendre n'importe quelle route au gré des diverses idées, des divers athéismes. Parce qu'il n'adore plus. Notre seule force, hein, au point de vue humain, je dis bien au point de vue humain, contre les idéologies athées qui nous enveloppent, c'est l'adoration. Et quelqu'un qui n'adore plus se fait nécessairement prendre. N'est qu'à regarder autour de vous. On voit ça tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'adorent plus. Même qui se disent chrétiennes, qui n'adorent plus. Qui ne savent plus du tout ce que c'est que l'adoration. Alors à ce moment-là, comment voulez-vous qu'on soit vrai? Comment voulez-vous acquérir une vérité spéculative s'il n'y a pas la vérité élémentaire de l'adoration? Parce que c'est la vérité élémentaire, elle est fondamentale. Elle est merveilleuse. D'une certaine manière, elle atteint un sommet, mais elle est élémentaire. Nous ne sommes vrais, humainement parlant, que si nous adorons. Ça, il faut en avoir la conviction, c'est-à-dire l'évidence. On peut en avoir l'évidence. Une évidence pratique, c'est évident, pas une évidence spéculative, mais une évidence pratique. On sait que c'est ça qui nous stabilise. Parce que par l'adoration, nous touchons le roc. Et donc ça nous stabilise. Ça nous donne une profondeur unique. Puisque ce n'est plus notre profondeur, mais celle du Créateur que nous atteignons. Vous voyez, la première stabilité de l'être humain, c'est là. Et s'il n'y a plus cette stabilité, on est un errant. On est un errant, on ne sait plus où on va. Une humanité qui n'adore plus est une humanité qui nécessairement ne sait plus où elle va. Et qui tôt ou tard se laisse guider, se laisse conduire par de faux guides. Alors si on est chrétien, on dira par le démon. Si on est philosophe, on dira les idéologies athées. C'est ce qu'on dit, pas les idéologies athées. Le positivisme, le marxisme, tout. Parce que les idéologies athées se proclament et disent leur efficacité. Tandis que l'adoration est intérieure. Et elle n'a pas d'efficacité immédiate. C'est pas un système. Avant tout, une purification intérieure de nous-mêmes. Une purification affective de nous-mêmes, de notre volonté. C'est la grande purification. Parce que c'est se remettre dans la vérité. Et toujours la vérité est la grande purification. Voyez, si je suis attentif à ce que Dieu réclame de son peuple, le peuple d'Israël, un seul Dieu tu adoreras. C'est le premier commandement. Et ça, ça m'en dit long. Ça fait comprendre que la première chose fondamentale et première que Dieu demande à son peuple, qu'il veut éduquer et qu'il éduque par la loi, c'est l'adoration. Et ça ne peut pas être autre chose. Bon, continuons. Je crois que ça, c'est le noyau. Hein. C'est le noyau auquel il faut bien comprendre. Continuons que cette adoration intérieure et premièrement intérieure va impliquer le point de vue du corps. Alors ça, c'est très important de comprendre. C'est la personne humaine qui est une créature. C'est sûr que l'âme est créée en premier lieu. Elle est créée dans un corps, et à partir de là, il y a l'individualité de la personne humaine. Si l'adoration est premièrement un acte intérieur qui fait qu'on se remet totalement à Dieu et qu'on laisse Dieu passer devant, l'adoration va impliquer aussi l'offrande de notre corps. Le corps n'est pas étranger à l'adoration. Pourquoi ? Parce que si nous offrons en premier lieu notre volonté, notre capacité d'aimer, cependant, puisque nous prenons conscience que c'est le Dieu créateur que nous adorons. Nous devons, au-delà de la volonté, comprendre que le fondement d'adoration, c'est reconnaître notre dépendance dans l'ordre de l'être. C'est cette dépendance dans l'ordre de l'être qui caractérisera en définitive l'adoration. À la différence de l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, je peux reconnaître que mon ami joue un rôle très important pour moi, psychologiquement, un rôle capital. Sans lui, je ne peux plus respirer. Je dirais ça, c'est pas vrai, c'est symbolique. Je peux dire de Dieu, sans lui, je ne peux pas respirer. Ça, c'est vrai. Alors, je comprends que cette dépendance radicale que je découvre à l'égard de Dieu dans mon âme et dans ma volonté, cette dépendance va prendre possession de tout mon corps. Parce que pour moi, vivre, c'est exister. Fameux. Parole d'Aristote. Tot sein, tot sein, esti toinein. C'est l'être pour moi, c'est mon être. Donc, l'adoration, acte personnel, commence par le point de vue intérieur et volontaire et demande d'assumer tout le corps. Parce que mon corps est uni substantiellement à mon âme. Le lien entre le corps et l'âme est quelque chose de substantiel. C'est une unité dans l'être. Donc, si mon âme reconnaît la dépendance totale à l'égard de Dieu dans l'ordre non seulement de la vie, mais dans l'ordre de l'être, il faut que tout moi-même, je puisse retourner vers Dieu. Il faut que tout moi-même soit dans cet état de dépendance. Et c'est pour ça que l'adoration va impliquer nécessairement la coopération du corps. Il y a un langage à l'adoration. Un langage qui n'est pas la parole, mais qui est l'expression du corps. On se met à genoux. On se met en prostration. Ceci exprime que tous nous-mêmes, nous soyons offerts à Dieu, et pas seulement notre volonté, et pas seulement ce qui est le plus profond en nous, et tout nous-mêmes. Et ceci est essentiel, l'adoration. Je ne peux pas adorer uniquement intérieurement. Je dois adorer aussi extérieurement. Pourquoi ? Parce que Dieu est le créateur de mon âme et de mon corps. Pas de la même façon, c'est évident, de mon âme en premier lieu, et de mon corps en second. C'est pour ça que l'adoration est d'abord intérieure. Une adoration qui ne serait plus qu'extérieure et pharisaïque. L'adoration est d'abord intérieure. Et elle doit d'abord prendre possession de tout mon corps, de toute mon âme, de toute ma volonté, pour prendre ensuite possession de tout mon corps. Alors, elle va de fait impliquer l'offrande de son corps. Et c'est signifié par la prostration, c'est signifié par la génuflexion. On ne veut plus exercer notre autonomie qu'à l'intérieur de cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Et notre autonomie ne pourra plus s'exprimer qu'à l'intérieur de cette dépendance radicale, qui est plus fondamentale que notre autonomie. Cette dépendance à l'égard de Dieu à travers notre corps va nous permettre de comprendre l'extension de l'acte d'adoration. Non plus son intensité, mais son extension. L'acte d'adoration s'étend au corps, s'étend à toute notre sensibilité, s'étend à toute notre imagination. C'est tout nous-mêmes qui adorons Dieu. C'est pas suffisant d'adorer Dieu d'une façon purement intérieure. C'est pas suffisant. Je parle ici au plan philosophique. Il faudra bien expliquer la parole de Jésus. Je veux dire, le Père veut des adorateurs en esprit et en vérité. Il faudra bien expliquer ça. Mais ici, je peux dire que il faut que tout moi-même soit offert à Dieu, selon un certain ordre. D'abord, l'adoration intérieure de la volonté qui prend possession de tout mon corps et de toute ma sensibilité, qui doit être offert à Dieu. Et comme je ne peux pas m'anéantir, mon adoration va se traduire dans un sacrifice qui va exprimer que j'offre tout mon corps à Dieu. Et ce sera le sacrifice des animaux. Vous voyez comment nous pouvons justifier au plan philosophique que l'adoration va réclamer un holocauste, symboliquement. Un holocauste, c'est-à-dire où tout est brûlé, où tout est offert. Et ça, c'est le propre, justement, de cette adoration à l'égard de Dieu. Et comme je ne peux pas m'anéantir, puisque je n'ai pas un droit d'anéantissement, je m'en remets à Dieu. C'est des raisons nette, précise, on comprend très bien comment l'immolation de l'animal va symboliquement exprimer que je donne tout mon sang à Jésus. Je donne toute ma vie à Jésus.